Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est sur fond de crise dans l'hôpital public que le Sénat doit adopter ce mardi le projet de loi santé. Les personnels demandent davantage de moyens. Nous ferons le point sur la mobilisation qui dure depuis près de 3 mois aux urgences.
Peut-on obliger les salariés à travailler le dimanche? L'enseigne Cora a tenté de le faire alors que la loi évoque le volontariat. L'entreprise est donc contrainte d'ouvrir des négociations. Nous y reviendrons.
Dans ce journal encore, nous ferons un point sur la situation au Burkina Faso. Hier, 19 corps y ont été retrouvés. C'est l'une des attaques les plus graves dans le pays.
L'ancien maire de Riace, dans le sud de l'Italie, est jugé aujourd'hui. Il est accusé d'aide à l'immigration clandestine. Il y a 3 ans, les étrangers ont représenté jusqu'à un quart de la population de la commune.
Après cette édition, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique et pour cette question. La République En Marche a-t-elle des tentations de parti unique ? Quand les urgences saturées mènent à la mort d'une patiente, c'est effectivement ce qu'il s'est passé en décembre dernier à l'hôpital Lariboisière à Paris. L'enquête préliminaire dévoilée ce matin par le quotidien Le Monde le confirme. La charge de travail très importante ce jour-là aurait conduit le personnel de l'hôpital à ne pas respecter le protocole de prise en charge. La victime, âgée de 55 ans, est décédée d'une méningite. Et c'est justement parce qu'ils sont à bout, saturés, exténués, que les personnels des hôpitaux publics, tous services confondus, se mobilisent une fois encore aujourd'hui, mardi, à l'appel d'une intersyndicale. Ils seront devant le ministère de la Santé à Paris et devant plusieurs agences régionales de santé. Tara Schlegel, vous êtes notre spécialiste santé à France Culture. Les annonces de la ministre Agnès Buzyn la semaine dernière n'ont pas convaincu.
Oui, Agnès Buzyn a proposé jeudi dernier quelques pistes sans vrai succès. La ministre annonce confier une mission au Conseil national de l'urgence hospitalière et à un député En Marche. Le rapport sera prêt à l'automne. D'ici là, dit-elle, il faut accompagner financièrement les services en crise plus directement et plus spontanément. Fermer des guillemets, mais elle n'a donné aucun chiffrage. D'où la déception des personnels mobilisés depuis 3 mois qui élargissent leur mouvement. Pour eux, la loi en discussion au Sénat aujourd'hui n'apporte aucun remède immédiat à l'afflux de patients obligés d'attendre des heures dans les couloirs et à la violence qui en découle. 8 millions de Français accueillis aux urgences en 1988, 10 millions en 95, 21 millions aujourd'hui, c'est tout un système qui craque.
Épreuve en est d'ailleurs, Tara, dans plusieurs services d'urgence des hôpitaux, les arrêts maladie pleuvent.
Oui, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier, avec des réquisitions organisées par la gendarmerie, Lariboisière et maintenant Saint-Antoine à Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, 9 infirmières sur 10 et 7 aides-soignants sur 9 étaient en arrêt maladie à Saint-Antoine. La direction a proposé aux CDD, certes volontaires, de rester travailler 18 heures d'affilée. Le collectif Interurgence affirme qu'il y a eu des pressions. Et la nuit de dimanche à lundi, rebelote, le service tournait avec 2 infirmières intérimaires, une CDD qui était resté jusqu'à 2h du matin, 2 aides-soignantes intérimaires et 2 issues d'une brigade de remplacement. Bref, 7 personnels soignants sur 19 d'habitude. Les urgences de Saint-Antoine ont été délestées vers les autres hôpitaux parisiens entre 2h et 7h du matin.
Merci Tara Schlegel. Un manque de personnel donc et une violence toujours présente. Hier, c'est au CHU de Rennes qu'une jeune patiente a physiquement agressé 4 membres du personnel soignant. Ils ont décidé de porter plainte et de se joindre au mouvement. Et c'est dans ce contexte donc que le Sénat doit adopter cet après-midi le projet de loi santé d'Agnès Buzyn. Il prévoit notamment de lutter contre les déserts médicaux. Députés et sénateurs tenteront ensuite, dans 9 jours, de se mettre d'accord sur une version commune. Le déficit de la sécurité sociale se creusera de nouveau cette année. Il n'y aura donc pas de retour à l'équilibre comme cela était pourtant prévu. La commission des comptes table maintenant sur un déficit compris entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros. Elle prend en compte la réalité du ralentissement économique et surtout les concessions faites par le gouvernement face à la contestation des Gilets jaunes ces derniers mois. L'enseigne de grande distribution Cora ouvre des négociations sur le travail dominical. La direction réagit ainsi à la pression médiatique et syndicale. Elle avait licencié une salariée en Bretagne, à Saint-Malo, salariée qui refusait de travailler le dimanche. Or, Annabelle Grelier, la loi impose le volontariat.
La loi Macron de 2015 sur le travail du dimanche pose en effet le principe du volontariat. Mais comme le craignaient les syndicats à l'époque, le volontariat s'est vite transformé en obligation dans certaines enseignes. Surtout pour celles n'ayant mené aucune négociation sur le sujet. Patrick Fruitier, délégué CFTC chez Cora, souhaite que la situation soit désormais mise au clair et que le volontariat soit acté.
On trouve inadmissible qu'on puisse licencier un salarié qui ait des années de travail chez Cora parce qu'il refuse de travailler le dimanche. Nous aujourd'hui on veut uniformiser tout ça au niveau de l'entreprise et que les salariés ne soient plus importunés par l'obligation de venir travailler dimanche. Il faut savoir que la CFTC a toujours défendu les valeurs familiales. On ne dérogera pas sur le fait que les salariés puissent travailler le dimanche ou pas, mais ça sera leur choix et pas le choix de l'employeur.
Si la loi Macron pose la base du volontariat pour le travail du dimanche, elle permet aussi de passer par des clauses dérogatoires sur le contrat de travail. Des clauses qui ne figuraient pas, selon les syndicats, sur celui de la salariée licenciée qui était entrée dans l'entreprise avant cette nouvelle pratique. Un cas qui ne serait pas isolé, une dizaine d'autres salariés pourraient être concernés chez Cora.
Il sera question des conditions de travail ce mardi encore à Genève, suite de la conférence internationale sur le travail que nous évoquions hier ici même. L'organisation a 100 ans, plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement vont faire le déplacement et aujourd'hui Emmanuel Macron va y prononcer un discours. Il rappellera son attachement au multilatéralisme. Le président français a mis la réduction des inégalités à l'agenda du prochain G7 qui se tiendra fin août à Biarritz. Quand remplacer Laurent Wauquiez ? Le calendrier devrait être établi ce soir lors du bureau politique du parti Les Républicains, le premier du genre depuis la démission du chef de file LR. État des lieux des droites dans les matins de France Culture ce mardi. Nous retrouverons nos invités après ce journal. Ils étaient 6 en mars dernier. 12 de plus ont été rapatriés en France hier. 12 enfants de familles djihadistes françaises arrêtées en Syrie. La plupart aujourd'hui sont orphelins. Tous, en tout cas, sont très fatigués. Ils étaient retenus dans des camps du Kurdistan syrien. Comment sont-ils maintenant pris en charge, Antoine Marette ?
Dès leur retour en France, ces enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont des traumatisés de guerre et sont donc pris en charge de façon sanitaire, médicale et psychologique en dehors de leur famille d'origine. Ils sont placés dans des familles d'accueil spécialement formées ou dans des foyers avec des éducateurs spécialisés. Pendant ce temps, le juge des enfants diligente une enquête sur les personnes qui, dans leur famille restante, seraient susceptibles de les accueillir, grands-parents, tantes ou encore oncles. Maître Marie Dosé est l'avocat des familles françaises dont les enfants sont au Kurdistan syrien.
Dès que ces enfants rentrent en France, on doit les protéger de leur histoire. Ces enfants sont d'abord des enfants qui doivent un jour ou l'autre retrouver une vie normale, aller à l'école et se fondre dans l'anonymat de l'enfance parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ce qu'il faut lorsqu'ils rentrent, c'est les laisser tranquilles. On va déjà devoir un jour ou l'autre leur expliquer ce qui leur est arrivé. Et donc l'important, c'est de les préserver de cette histoire.
Il reste encore 200 enfants françaises en Syrie. La France a choisi de les rapatrier au cas par cas. Une troisième vague de retour devrait avoir lieu prochainement.
C'était Antoine Marette pour France Culture. Il est 8h passées de 8 minutes, nous continuons ce journal. Un nouveau massacre a eu lieu dans le centre du Mali ces derniers jours, faisant 95 morts. Des meurtres par dizaines, des maisons incendiées, des animaux abattus, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Cette attaque s'inscrit a priori dans le conflit qui oppose les communautés Peul et Dogon, éleveurs et agriculteurs. En mars dernier, plus de 150 Peul avaient été tués. Cela avait entraîné la démission du gouvernement malien. Après le Mali, le Burkina Faso, devenu lui aussi la cible des djihadistes en Afrique de l'Ouest. Des violences mises en lumière il y a un mois après l'assaut meurtrier lancé pour libérer des otages et notamment deux Français. Hier encore, 15 corps au moins ont été découverts dans un village du nord du pays. Les attaques, Claude Guibal, se multiplient à un rythme effrayant.
Pas une semaine désormais sans une attaque. Des violences qui ont commencé en 2015 après la chute du président Blaise Compaoré. Les djihadistes venus du Mali voisin se sont engouffrés dans le chaos né de l'insurrection. Ils se sont principalement implantés dans les zones délaissées par les autorités, zones frontalières en déshérence, aux populations pleines de ressentiment envers l'État central. Après les attaques contre les intérêts occidentaux, les djihadistes au Burkina Faso semblent avoir adopté la stratégie désormais de la division intercontinentale. communautaire. À chaque attaque contre une église, contre un village, un cycle de violence qui se répondent. L'attaque de dimanche s'est déroulée à Arbinda, dans le nord du pays, alors que les forces de défense et de sécurité mènent une grande opération antiterroriste dans cette zone. Or, début avril, au même endroit, 62 personnes avaient déjà été tuées lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Aujourd'hui, l'État, incapable d'assurer la sécurité, laisse la main aux milices d'autodéfense villageoises qui font régner leurs lois. L'influence de ces milices qui se substituent dans de grandes parts du pays à l'autorité de l'État inquiète les experts qui dénoncent le risque de dérive communautaire, car à chaque attaque, les représailles ne tardent pas. Elles s'exercent principalement envers une communauté, les Peuls, un peuple d'éleveurs nomades majoritairement musulmans, détestés par les agriculteurs majoritaires qui les accusent de détruire leurs terres et les récoltes au passage de leur bétail. Des Peuls que la Katiba du Massina, un des plus puissants groupes djihadistes d'Afrique de l'Ouest, cherche à instrumentaliser pour qu'ils rejoignent les rangs du djihad.
Claude Guibal qui revient du Burkina Faso dans l'œil du cyclone djihadiste. C'est aussi un reportage diffusé ce matin que vous pouvez retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Parviendra-t-il à pousser les Soudanais au dialogue ? Il l'espère en tout cas. Un émissaire américain doit se rendre dans les prochains jours au Soudan. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique veut y demander à l'armée au pouvoir ainsi qu'aux représentants de la contestation de reprendre ce dialogue. Hier, le chef rebelle a dit avoir été expulsé au Soudan du Sud avec deux figures de son mouvement. C'est un procès symbolique qui s'ouvre aujourd'hui en Italie, symbole de la crise migratoire qui déchire le pays. L'ancien maire de Riace, un village de Calabre, était devenu un modèle pour l'intégration des migrants. Le gouvernement italien y a vu une aide à l'immigration clandestine. Domenico Lucano comparaît donc aujourd'hui, accusé notamment d'avoir organisé des mariages de convenance. Son portrait ce matin est signé Mathilde Imberti.
Domenico Lucano, mimo pour ses soutiens, est devenu un symbole sans jamais quitter sa Calabre natale, ce bout d'Italie pauvre et vieillissant. En 1998, quand les Kurdes débarquent sur les côtes calabraises, son militantisme débute. Dans un collectif de citoyens, il fait germer l'idée de transformer les villages somnolents en bourgs cosmopolites. Élu pour la gauche, maire de Riace, 1800 habitants, il rouvre des ateliers d'artisanat, fait renaître les savoir-faire ancestraux. Le village et ses fresques colorées voient défiler des élus admirables, des réalisateurs comme Wim Wenders, des journalistes qui immortalisent l'expérience. Aujourd'hui, le modèle n'existe plus. Une année a suffi à le détruire. Les fonds alloués par l'État ont été retirés. Les familles étrangères sont parties chercher fortune ailleurs. Elles ont représenté jusqu'à un quart de la population du village. Mimo Lucano, 61 ans depuis quelques jours, est interdit de séjour à Riace en attendant le jugement. Et la Ligue de Matteo Salvini y a même remporté les dernières élections municipales, signe que l'utopie de Riace n'avait pas convaincu tout le monde. Pour faire tourner ce modèle, l'ancien maire a-t-il pris certaines aisances avec la loi ? Son procès doit le définir. Dans une écoute téléphonique portée à l'accusation, il conseille à une jeune femme nigériane de se marier à un Italien. Sa gestion des marchés publics est également contestée. Mais comme à chaque coup dur, en marge de son procès ce mardi, ses soutiens nombreux viendront banderole en main défendre le maire des migrants.
Ajoutons que le village de Riace n'est pas le seul mythe qui s'est écroulé sous la poussée de la Ligue, devenue premier parti d'Italie avec plus de 34% des voix lors des européennes. À Lampedusa également, il symbole de l'accueil des migrants en Méditerranée, la Ligue a obtenu le 26 mai plus de 45% des voix. Les européennes qui ont fait triompher en Grande-Bretagne le parti du Brexit. Ce mardi, la campagne pour remplacer Theresa May à la tête du parti conservateur débute et là aussi, l'idée du Brexit l'emporte. 11 candidats s'étaient déclarés, seuls 10 ont obtenu les parrainages suffisants, Antoine Gignot.
Ce n'est pas vraiment une surprise. Le seul candidat qui n'a pas obtenu suffisamment de parrainages pour se lancer dans la course était aussi le seul à afficher ouvertement son hostilité au Brexit. Sam Gyimah, ancien secrétaire d'État, proposait d'organiser un deuxième référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il n'a pas réussi à réunir les 8 signatures de députés nécessaires pour se présenter. Les autres, désormais candidats officiels, ont une approche diamétralement opposée, à l'exception de Rory Stewart, ministre du Développement international, et Matt Hancock, ancien économiste de la Banque d'Angleterre, qui veulent éviter à tout prix une sortie sans accord. Tous se disent favorables à un Brexit plus ou moins radical. Parmi les favoris, Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, veut renégocier les conditions de départ avec Bruxelles. Michael Gove, ministre de l'Environnement, propose de demander un nouveau report d'abord le temps de réexaminer la situation. Enfin, Boris Johnson menace de ne pas payer la facture de sortie de l'Union européenne s'il n'obtient pas de meilleures conditions de départ. On s'achemine donc vers une campagne très eurosceptique avec un prochain Premier ministre qui sera probablement en désaccord avec l'ensemble de la Chambre des communes, puisque les députés ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas d'un Brexit radical. Situation ubuesque où le gouvernement serait de nouveau bloqué et contraint d'organiser des élections.
Donald Trump laisse entendre qu'il pourrait imposer de nouveaux droits de douane sur le vin français. Il estime en effet que le vin américain et notamment californien est victime d'une concurrence déloyale. C'est l'Union européenne qui fixe actuellement les taxes sur ses importations. En bref encore, le piton de la fournaise volcan de la Réunion est entré ce matin en éruption. C'est la deuxième fois cette année que le magma arrive à proximité de la surface. Sachez que la zone autour est totalement inhabitée. La pluie tombera encore ce mardi sur l'Hexagone, d'abord sur une large partie ouest, seul le nord-est sera épargné. Puis cet après-midi, les averses vont toucher tout le pays avec des températures qui restent fraîches. Ce matin, il fait 11 degrés à Brest, 14 à Bordeaux et Besançon, 15 à Lille et Lyon, 16 degrés à Paris et 21 degrés à Nice.